L'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, à travers les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée au précurseur le plus important du sionisme socialiste, Moshe Hess. Et pour cela, nous recevons un invité, Jacques Amar, qui est docteur en droit et en sociologie et également maître de conférences en droit privé à l'Université Paris-Dauphine. Bien sûr, nous sommes avec Michael Barzvi.
Ah non, je pensais que c'était comme le Tour de France, je suis en journée de repos.
Bonjour Michael.
Bonjour. Bonjour Jacques.
Bonjour,
bonjour
Jacques. Bonjour.
Bon, Jacques est un ami, donc on va se tutoyer puisqu'on se connaît depuis pas mal d'années. Nous avons consacré déjà dans cette émission, dans cette série, on a beaucoup parlé du sionisme socialiste et également de la pensée de Aaron David Gordon. Mais aujourd'hui, on voudrait se pencher sur... Peut-être un des fondateurs de l'idée même nationale du sionisme, avant Herzl, bien entendu. Il s'agit de Moshe Hess. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter en la personnalité assez intéressante de Moshe Hess ?
Alors, Moshe Hess, en quelques mots, bon, il est né en 1912, donc au début du 19e siècle. Il est l'un des formateurs de Karl Marx, puisqu'au départ, il fait partie de ce que l'on appelle le socialisme éthique, et c'est lui qui va initier Marx au socialisme. C'est lui qui va même. Les biographes de Marx disent même qu'il est co-auteur d'un des livres les plus importants de Marx qui s'appelle L'idéologie allemande.
Oui, avec Engels.
Avec Engels. En 1840 intervient ce qu'on appelle l'affaire de Damas. L'affaire de Damas, c'est une histoire où on accuse un rabbin d'avoir tué un enfant, c'est de bon, et puis tout d'un coup il voit l'accusation de meurtre rituel. Alors selon les historiens, l'affaire de Damas, c'est finalement la répétition générale de l'affaire Dreyfus. Et puis en 1844, on sait que Karl Marx sort son livre sur la question juive, ce qui veut dire que dès le départ se pose la question: qu'est-ce qu'on fait des juifs avec le socialisme? Et puis en 1862, Moses Hess, il ne signe plus Maurice Hess, puisqu'au départ il signait Maurice Hess. Il dit maintenant je reviens à mon peuple, je reviens à mes origines. Et il écrit un livre qui s'appelle Rome et Jérusalem, la dernière question nationale. Et pour la première fois, dans l'histoire de la pensée, il systématise l'idée que si tous les autres peuples ont droit à un État, alors le peuple juif aussi a droit à un État, et cet autre État ne peut être qu'Israël avec Jérusalem comme capitale.
D'accord. Alors sur ce retour, il y a ce petit texte que Stéphanie va nous lire, justement le moment où il parle de son retour au sein du peuple juif.
« Me voici de retour au sein de mon peuple, après une séparation de 20 ans. Je participe à ses fêtes et à ses deuils, à ses commémorations et à ses espérances. Je m'engage dans les combats spirituels qui se livrent à l'intérieur du judaïsme et qui opposent le peuple juif au peuple civilisé au milieu desquels il vit et avec lesquels pourtant il ne peut vivre en harmonie malgré 2000 ans de lutte et de vie commune. Une pensée que je croyais avoir pour toujours étouffée s'impose de nouveau à moi avec vigueur, la conscience de ma nationalité juive. Elle est inséparable de l'héritage de mes pères et de la Terre Sainte. Elle est liée à la ville éternelle, au lieu où est née la foi en Dieu, unité de la vie, et la foi en la réconciliation future de tous les hommes. »
Très beau texte, Jacques.
Juste pour l'anecdote, ce premier texte, c'est la première lettre, c'est l'introduction de Rome et Jérusalem pour dire oui. « Voilà d'où je viens, ok, j'étais très loin, vous le savez, puisque à l'époque il est quand même connu dans le milieu... Dans le milieu intellectuel, il continuera d'ailleurs de jouer un rôle important dans l'international socialiste, et il affiche la couleur. Je suis de retour. Mais voilà.
D'accord. Alors je crois que c'est important parce que la période, effectivement, c'est le 19e siècle, c'est après la Révolution française, c'est après l'émancipation, c'est donc des sociétés allemandes, françaises, puisqu'il a vécu aussi en France, des sociétés qui s'essaye à l'intégration des Juifs, d'une certaine façon. Et donc, il y a, malgré tout, un regard sur ce qu'on a appelé l'assimilation ou l'intégration des Juifs. Et, malgré tout, la question nationale va réapparaître. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient Moshe Hess. Et je crois que ses premières recherches, c'était Spinoza, qui était, je dirais peut-être, le penseur de la modernité dans le judaïsme. Donc, au fond, la question de la nation, est-ce c'est la question de la modernité pour Hess?
Déjà, il faudrait savoir ce qu'on entend par modernité, c'est toujours le même problème. Non, sur Spinoza, ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de fonds remontés au niveau des origines du sionisme, Spinoza, dans, par rapport à ce qu'il a écrit dans le traité théologico-politique, où il nous dit que, par définition, Israël, qui retrouvera son état, alors pourra éventuellement retrouver ses lois. Mais bon, pour Spinoza, en tous les cas, c'est extrêmement ambigu par rapport à ce qu'il pense du peuple juif. C'est tout l'enjeu du bouquin de Millénaire de Jean-Claude Millénaire sur Spinoza, où il nous dit finalement, est-ce qu'il ne voulait pas se débarrasser de l'identité juive en attaquant la circoncision? Mais au départ, effectivement, Hess est spinoziste, au sens où il pense que, parce que c'est tout l'enjeu du spinozisme, il pense que par l'intellect, on peut reconstruire, on peut avancer, faire avancer l'humanité. Et la modernité qui se caractérise par ce qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est-à-dire l'idée que d'émancipation et donc d'autonomie du sujet, implique effectivement implique cette dimension dans sa démarche. Toute sa démarche au départ, c'est de dire on est l'individu autonome va pouvoir changer les conditions sociales.
Oui. Et donc la question de la nation, comment est-ce qu'elle apparaît chez les socialistes de façon assez curieuse, parce que dans l'impression qu'on a, c'est justement le socialisme, c'est une espèce de messianisme universel, disons, qui a pour but, finalement, de supprimer les nations.
Alors, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, puisque, sauf erreur de ma part, la discussion sur la nation passe d'abord par, effectivement, la question juive, avec le texte de Bruno Bauer auquel va répondre celui de Marx. Par la suite, par hasard, je suis tombé sur un texte de... Marx parlera d'émancipation nationale à propos de la Pologne, puisqu'il dira il faut passer par la nation pour finalement que le peuple s'émancipe et qu'ensuite accède au socialisme. Oui. Mais après, on le sait, dans le niveau du. Mais fondamentalement, la problématique nationale n'est pas, sauf erreur de ma part, n'est pas centrale chez les marxistes, sauf après avec ce qu'on appellera les développements austro-hongrois. Oui. Et tout ce qui interviendra. Et puis, mais à la fin, bon, la rupture dans le marxisme, c'est que Rosa Luxembourg, par exemple, elle évacuera la question nationale. Puis après, ce sera le débat entre Lénine et Staline qui aboutira à quelque chose de radicalement distinct.
D'accord. Alors, ce qui a, à mon avis, été le tournant pour Moshe Hess, c'est quand même la question italienne.
Effectivement.
Et donc, la réunification, si on peut dire, nationale de l'Italie, et notamment l'action de Mazzini. Alors, est-ce que tu peux développer, c'est d'ailleurs pourquoi, c'est la raison pour laquelle le livre central sioniste de Moshe Hess s'appelle Rome et Jérusalem, justement parce qu'il s'appuie au fond sur le nationalisme, on peut dire italien, pour fonder la renaissance nationale juive.
Et c'est exactement ça, c'est que le Rome et Jérusalem, c'est pas Rome et Jérusalem, parce qu'on a la tradition biblique, on a tendance à opposer Rome et Jérusalem au sens où Rome, ce serait Esav, et Jérusalem, ce serait l'autre tendance, ce serait Yaakov. Non, l'idée, c'est qu'il faut prendre l'exemple de Rome qui, par la révolution, par ce qui s'est passé en Italie avec Mazzini et également Garibaldi, s'est émancipé de la tutelle de l'Église, a réussi à se réunifier en tant que nation, et dire, puisque les Italiens ont réussi, il n'y a pas de raison que les Juifs ne réussissent pas par rapport à la domination turque qui était présente à l'époque.
Et lui, il envisageait que cet futur État d'Israël, cette nation juive, se retrouve en Palestine et pas ailleurs.
Ah ben pour lui, il n'y a pas d'hésitation. C'est ce qui fait la différence fondamentale entre le texte de Hess et celui de Herzl. C'est que pour Hess, par définition, c'est Israël, Jérusalem, au sens géographique du terme, pas au sens spirituel du terme. C'est pour cela que quand, dans l'histoire du sionisme, certains commencent en 1881 ou en 1895. En 1880, c'est par rapport à Pinsker. 1895, c'est par rapport au texte d'Herzl. Ben, ils effacent complètement l'idée que, fondement de l'idée nationale juive, il y a ce texte de Hess qui dit qu'il ne peut pas y avoir d'autre solution que la terre d'Israël.
Oui. Enfin, cela dit, les dirigeants du sionisme socialiste en Israël l'avaient parfaitement compris, puisqu'ils ont ramener le corps de Moshe Hess en Israël, et ils l'ont enterré justement dans ce cimetière où se trouvent tous les grands fondateurs du sionisme socialiste, c'est-à-dire au kibbutz Kineret, à côté de Sirkin, Borokhov et Katzenelson, qu'on a déjà évoqué dans une émission précédente dans cette série. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté malgré tout en contact, tu dis, avec le mouvement sioniste socialiste. Et d'ailleurs, je crois qu'une partie de ses écrits ont été publiés à l'époque par la RDA. Et une partie des archives de Hesse se trouvait à Moscou.
Alors, je ne connaissais pas ce détail. Non, son premier ouvrage, en fait, pourquoi il peut être repris, pourquoi il a été...
L'Institut du marxisme-léniniste de Moscou, il y a des textes de Hesse.
Oui, on va dire que ses premiers textes peuvent parfaitement être réédités, puisqu'il développe toute une théorie de l'histoire du développement de l'humanité en trois étapes. Pour lui, au départ, dans un texte qui s'appelle la triarchie, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et l'Angleterre, bon, il développe en gros une théorie du capitalisme financier qui pourrait encore trouver sa place, si ce n'est qu'à l'époque, même s'il y a une référence à Jérusalem dans ses textes, pour lui, Jérusalem, ça ne peut être, c'est pas du tout centré sur la terre d'Israël. C'est Jérusalem au sens spirituel, c'est au sens, une sorte de métaphore pour désigner une étape de l'émancipation. Mais la rupture, quand il dit « je reviens à mon peuple », c'est qu'il dit « bon, maintenant, ça y est, je vais redescendre Jérusalem sur terre ».
D'accord. Mais pour lui, est-ce qu'il s'agissait d'un rejet de l'assimilation, de l'intégration ou du constat de l'échec de l'assimilation ?
C'est à mon avis le constat qu'il n'y a aucune possibilité pour les juifs allemands qui croyaient qu'ils pouvaient s'intégrer, qu'il n'y a aucune possibilité pour eux de s'intégrer en Allemagne. Le dernier mot de Rome et Jérusalem, c'est la grande réaction. C'est-à-dire qu'il dit clairement, vous ne pourrez pas et vous ne savez pas ce qui vous arrivera. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui vous arrivera si vous restez. Et ça, il écrit en 1862. Et ça fait écho à un texte d'Heinrich Heine dans De l'Allemagne. Et dans De l'Allemagne, très tôt, Heinrich Heine, alors lui aussi s'était converti, puis après il est revenu. Il est revenu au judaïsme. Et lui aussi, il dit non, vous n'avez même pas conscience. Ce qu'ont fait les Cosaques à côté de ce qu'ont fait les Allemands, c'est rien. Parce qu'il dit, ils ne vous assimileront jamais. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, vous n'avez aucune chance. C'est très violent. Ouais. Et c'est ce qui explique pourquoi, au départ, lorsque Hesse publie son texte en Allemagne, personne ne veut le lire. Et en France, également, il ne trouve aucun écho.
Qu'est-ce qui lui a fait dire ça ? Qu'est-ce qui lui a fait dire qu'en Allemagne, à cette époque-là, déjà, il n'y avait pas de possibilité d'assimilation pour les Juifs, de vraie assimilation ?
Alors, déjà, je pense qu'il a vu les réactions lors de l'affaire de Damas. Il a vu comment les journaux se sont comportés. En plus, il a vu... qu'on le veuille ou non, en Allemagne, il y a toujours une ambivalence par rapport aux Juifs. On va dire, on peut remonter un peu loin, un tout petit peu plus tôt, c'est avec Mendelssohn. Mendelssohn veut faire le juif, entre guillemets, civilisé, vertueux, pour montrer qu'il a une bonne facette. Et on lui dit tout de suite, convertis-toi au christianisme. Donc déjà, au niveau de l'histoire, de la pensée, des idées, si on remonte un tout petit peu, on a Mendelssohn, où, malgré tous les efforts qu'il a pu faire, qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a dit, convertis-toi. Et Mendelssohn, tous ses enfants et petits-enfants, après, sont convertis.
Mais comment on passe d'un socialisme, on va dire, normal, à un socialisme-sionisme c'est quand même étonnant que quelqu'un qui n'était pas religieux, qui était totalement socialiste, qui était ami avec Marx, avec Engels, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, il est passé comme ça de l'autre côté ? Enfin, de l'autre côté, si je peux me permettre.
Encore une fois, de l'autre côté.
Il
n'est pas passé du côté obscur de la force, ne l'oublions pas. Non,
mais toi, tu dis c'est la montée du chauvinisme germanique. Au fond, c'est la montée du...
Il dit les Allemands... Et alors, celui qui explique peut-être très bien ça, c'est l'anthropologue Louis Dumont, qui, dans un livre qui s'appelle « L'idéologie allemande », c'est pas un hasard, c'est l'appeler comme cela, il dit la chose suivante. En fait, il dit, voilà, il y a la France et l'Allemagne. Il dit l'Allemand, il est allemand par essence et homme par accident. Et ça, il le dit, voilà ce qu'on retrouve dans toute la pensée allemande du 19e siècle. Et le français, lui, il dit qu'il est d'abord homme et ensuite français. Il dit, il y a au fond de l'Allemagne, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas,
C'est parce que ça s'appelle Allemagne, c'est-à-dire c'est au-dessus de...
Au-dessus
voilà,
de...
Tous les hommes.
Il y a effectivement, c'est peut-être, on ne sait pas, c'est extrêmement violent de dire ça, parce qu'il y a toujours, on ne va pas sombrer dans une logique essentialiste, mais il y a toute une série de penseurs qui disent, il y a un problème, on aura des problèmes, nous les Juifs, là-bas. On aura des problèmes. C'est même pas la peine de continuer. On aura des problèmes. Et même, le rabbin Hirsch, lui, en 1880, il dit, à Pourim, il écrit un texte, il dit, ne vous étonnez pas si bientôt surgira un nouvel Aman ici. Alors, pour quelle raison ça nécessite des études sociologiques sur l'Allemagne qui... Je sais pas.
fond, c'est une conclusion que même la révolution socialiste ne sera pas capable de gérer le problème juif. Quoi. Il restera toujours quelque chose, un fond antisémite ou...
Bah, à l'époque, antisémite, c'est... Bon,
le
terme n'existait pas, mais on voit bien, il y a toujours un sentiment de rejet. Alors Fichte, le grand philosophe Fichte, lui, il disait, bon, les Allemands, les Juifs, faudrait leur... soit leur couper la tête, soit tous les déplacer ensemble et les mettre dans leur terre à eux. Mmh. En fait, la première idée du sionisme, c'est peut-être...
Fichte. Ou Feuerbach.
Parce que Feuerbach, il disait, en tous les cas, le judaïsme sans la terre, c'est le christianisme.
Oui.
Excuse-moi, Michael, je pense que nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons juste après ça.
הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב המה. אמרת שלום, אולי חשבת שאפשר הכל לשנות. היה עצוב שזה לא כך, אמרתי רק להתראות. אני הייתה דממה והיבטנו זה בזו, היה עצוב הלב המר ונפרדנו
Nous sommes de retour avec Jacques Amar qui nous parle de Moshe S.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce texte, Rome et Jérusalem, qui d'ailleurs existe en français. Il a été traduit aux éditions Albin Michel, dans la collection Présence du judaïsme. Je ne sais pas si on peut encore le trouver en librairie, mais c'est un texte assez intéressant. Malheureusement, dans les autres textes sur le sionisme très peu étudiés, dans le livre de Georges Bensoussan sur l'histoire politique et intellectuelle du sionisme, il y a uniquement deux pages sur Moshe S. En revanche, dans l'histoire de Avineri, Shlomo Avineri, qui s'appelle Histoire de la pensée sioniste, il y a un chapitre beaucoup plus long qui est consacré à Moshe S, et justement à la façon dont sa pensée s'est constituée à partir d'une idée qui, à mon avis, est fondamentale, c'est que lorsqu'il a vu ce qui se passait à l'âge de ce qu'on a appelé la société industrielle, il y avait cette espèce de déchirure, Et il a parfaitement compris, au fond, ce qui a été, après la vision des sionistes socialistes, je dirais traditionnels du mouvement sioniste, c'est que ça n'était pas la bourgeoisie juive qui allait construire ce nouvel État, mais le peuple, au fond, ce qu'on pourrait appeler le prolétariat, ou le, disons, les petites gens, que ce nouvel État, ou l'avenir historique, disons, du peuple juif, allait être bâti par les petits gens, par les prolétariens.
Oui, effectivement, surtout que pour l'anecdote, selon le dictionnaire critique du marxisme, donc œuvre de référence, c'est
comment dire, tu lis tous les matins.
Tous les matins, bien sûr. C'est Moshe S. qui a introduit le terme prolétariat dans le vocabulaire du marxisme. Donc ouais. Effectivement, il comprend bien qu'il y aura un problème et toute sa critique, c'est la raison pour laquelle, en fait, il ne s'était pas trompé, puisque lorsqu'il a voulu publier son texte, il a eu beaucoup de mal, et les milieux juifs, allemands, entre guillemets, bourgeois ou autres, l'ont complètement rejeté.
Oui, d'ailleurs, l'ouvrage, lorsqu'il a été publié, je crois qu'il a été très peu vendu, très peu lu.
Oui.
Ce qui est curieux, c'est qu'il a été en contact à cette époque avec d'autres rabbins qui ont été les précurseurs du sionisme, notamment quelqu'un qu'on connaît peu, qui s'appelle le rabbin Natonek, qui était un rabbin hongrois, avec lequel il entretenait des relations, qui est le rabbin Natonek, a été celui qui a poussé Kalischer, et l'autre, qui était un autre précurseur du sionisme. Et on a dans les archives sionistes à Jérusalem, il y a des échanges de lettres assez intéressants entre ce rabbin Natonek et Moshe S, justement. Alors quelque part, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est un rejet de la pensée de Hegel. C'est-à-dire l'universalisme a échoué par rapport aux juifs, il n'y aura pas de société universelle. Ce sont les individus de ce prolétariat qui vont faire la révolution nationale pour les juifs.
C'est pas comme ça que je le formulerais. Je pense que de façon beaucoup plus, on va dire, concentrée, l'objectif, c'est de dire bon, les Italiens s'émancipent, pourquoi pas les juifs? Ça, c'est le premier point.
Ouais.
Mais deuxième point important, qui fait que même si tout passera par le peuple, et pourquoi il met l'accent sur son retour, comme dans le texte qui a été que Stéphanie a lu tout à l'heure, pourquoi il met l'accent sur le retour aux traditions? Parce que qui pratique à l'époque, à part le peuple, à part ces gens? Il dit, il ne pourra pas y avoir de retour à la nation et à la création d'un État sans tradition juive. L'une des deuxièmes grandes différences avec Herzl, c'est que Herzl, par définition, ne fait aucune référence à la tradition juive dans son texte. Alors que pour S, ce n'est pas possible. Si la nation existe uniquement parce qu'il y a encore des gens qui pratiquent. Et s'il y a encore des gens qui pratiquent, alors on ne peut pas s'encombrer des discours. Ce n'est pas uniquement une affaire de discours, le judaïsme, c'est une question de pratique. Et c'est par cette pratique qu'effectivement, il pourrait y avoir la possibilité de faire émerger un État juif.
Mmh. Il y a une phrase qui m'a toujours étonné dans Rome et Jérusalem, c'est qu'il parle de l'avenir historique de deux grands peuples. Il compare les Chinois et les Juifs. Et il dit à un moment qu'il existe deux grands peuples dans l'histoire, dont la contribution passée a été considérable, mais qui sont dépourvus d'avenir historique. Les Juifs, aujourd'hui, un esprit sans corps, et les Chinois, devenus un corps sans esprit. C'est un peu dur pour les Chinois.
C'est un peu dur pour les Chinois, mais à l'époque, si on commençait à découvrir la Chine à l'époque.
Oui. Non, mais c'est vrai que, d'une certaine façon, la constitution d'une entité collective n'est possible qu'à partir de racines juives. C'est ça que tu veux dire.
C'est ce qu'il explique. C'est ce qu'il explique par son retour aux traditions. C'est ce qu'il explique aussi dans son livre quand il dit, c'est pour ça qu'il est un des premiers à repérer la spécificité du racidisme. Là, c'est le fait qu'il voit les masses, finalement, se détacher de la culture rabbinique qui est en train de virer vers le judaïsme libéral, avec Abraham Jäger notamment.
Oui.
Et il dit, ça ne passera pas par ces gens-là. C'est pour ça qu'il est même dans Rome et Jérusalem, c'est un des premiers textes où on a un constat sur l'émergence du racidisme dans toute l'Europe.
Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce texte, c'est finalement le passage de la religion à la nation. C'est-à-dire que, finalement, le message de l'émancipation des Juifs, c'était de leur dire, vous, Juifs, nous respectons votre religion. À titre individuel, vous pouvez pratiquer le culte que vous voulez, et le judaïsme n'est qu'un culte, au fond. Et ce que dit S, et il est peut-être le premier à le dire de cette façon-là, c'est que au fond, le judaïsme n'est pas une religion, mais c'est avant tout une culture nationale, c'est une nation. Il utilise même le mot de race qu'il faut prendre, effectivement,
au sens de peuple
à cette époque, et non pas dans le sens que ça a pris, disons, le sens biologique que ça a pris par la suite. Alors, c'est ce passage qui est intéressant. Comment il arrive à cette conclusion dans son texte ?
Déjà, dans la tradition, on a quand même la phrase du rabbin Saadia Gaon, la Torah est notre nation.
Oui.
Ensuite, on a quand même dans les écrits, il le cite d'ailleurs, il cite beaucoup Ramban, c'est-à-dire le rabbin Moïse Nachmanide, qui lui aussi met l'accent là-dessus. Il cite également le rabbin Yehuda Halevi, qui par le Kuzari avait dit il y a une spécificité, il y a une nation. Mais bon, il faut bien comprendre que la manière dont c'est exprimé au Moyen-Âge par des auteurs n'a pas la même portée ensuite avec l'émergence, effectivement, de la modernité, de l'émancipation des peuples, puisqu'on est après 1848, c'est-à-dire après ce qu'on a appelé le printemps des peuples sur toute la période 1848-52 pour l'Europe, pour toutes les minorités autrichiennes, polonaises, roumaines, tous ces débats-là.
Donc pour lui, il y a quand même tu as parlé tout à l'heure du texte de Marx sur la question juive, effectivement, où Marx réduit le juif à l'argent. Au fond, c'est plus ou moins, c'est très réducteur, mais je dirais que le fondement de l'antisémitisme moderne, c'est quand même chez Marx qu'on le trouve, parce que cette assimilation du juif à l'argent, c'est Marx qui le formule de la façon, je dirais, la plus radicale et la plus négative.
L'émancipation juive consiste à émanciper l'humanité du judaïsme, Marx.
Alors, juste pour l'anecdote quand même, c'est que un exégète, le professeur Maurice Kriegel, lui, il avait démontré que finalement, le texte sur la question juive, c'était Marx qui avait recopié ce que Hess avait écrit sur le christianisme.
Oui, il y a un autre texte de Hesse qui s'appelle « L'essence de l'argent », voilà, dans lequel il reprend aussi ses accusations, mais lui, il attaque la bourgeoisie juive.
Il n'attaquait pas le judaïsme en tant que tel.
Oui.
Il disait, bon, effectivement, en fait, le problème des juifs allemands, c'est que les gens s'émancipent. Et puis, il y a toujours eu ce problème, c'est que quand on pratique, bon, on va dire, c'est le constat sociologique n'a pas changé, c'est qu'on s'habitue avec son rituel, on s'habitue à aller à la synagogue, à faire des dons, à voir ses pauvres à côté. Tout ça, c'est un peu ça ce qu'il a très tôt dénoncé, et pour cela qu'il a mis l'accent sur le chassidisme dans son livre, pour cela qu'il a mis l'accent sur l'idée de retour à une pratique, on va dire, mettre l'accent sur les lois du deuil dès le départ, c'est quand même pas la chose à laquelle on pense quand on pense. Quand on pense par exemple au judaïsme. Mais juste un point par rapport à la contradiction entre religion et nation. Là encore, il faut peut-être revenir à Mendelssohn, parce que dans Mendelssohn, dans Jérusalem, en fait, il y a deux parties dans Jérusalem de Mendelssohn. Il y a une première partie où il dit finalement, le judaïsme, le judaïsme, c'est une religion comme les autres, c'est la religion de l'humanité et tout, mais à la fin, deuxième partie, on a une spécificité, mais il n'a jamais été capable de fonder la spécificité, il n'a pas été capable de concevoir le lien. C'est-à-dire qu'il a voulu dissocier et en fait c'est un échec complet. Pour ceux et tous les penseurs qui sont ensuite revendiqués de Mendelssohn, et ça va être la trace entre Mendelssohn, Hermann Cohen, voire Rosenzweig et ensuite Levinas, c'est tout leur problème, c'est est-ce que vous ou non vous reconnaissez l'idée d'une nation juive.
Oui.
Et par exemple, quand Levinas, je sais plus quel livre, dédie son livre aux 6 millions d'hommes morts et aux autres victimes pendant la Seconde Guerre mondiale, il fait totalement abstraction du fait que ce n'est pas des hommes qu'on a tués, mais c'était des juifs parce qu'ils étaient juifs. Et ça, c'est l'idée, effectivement, qu'on a encore dans l'idée que le judaïsme est une religion d'humanité. Donc, et il dit non, ce n'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça la rupture. Alors, comment elle intervient et autres ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se réveille et on dit maintenant, ce n'est plus. Pour utiliser le terme religieux, il a fait c'est une sorte de teshuva.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a dans l'explication que donne à propos de l'argent, je me souviens du texte de Hesse où justement il parle du Dieu, en disant que le premier Dieu d'Israël, Moloch, c'était le Dieu de l'argent, mais c'est aussi parce qu'il exigeait des sacrifices sanglants et qu'à un moment, on a changé ces sacrifices sanglants en sacrifices d'argent.
On a mis à la place de.
Voilà, à la place de du sang, on a fait. Bon. On a mis de l'argent à la place du sang.
Bon, c'est toute la logique du sacrifice que de remplacer quelque chose.
L'argent a pris la place de Moloch. Donc ça a toujours été le grand mythe de l'antisémitisme. Oui. Alors effectivement, Quand on lit, si on lit le texte de Hesse comme ce, enfin, celui sur les sens de l'argent, on a l'impression de lire vraiment un texte un peu antisémite, même si au départ, ça n'est pas exactement ça ce que veut dire Hesse. Lorsque Marx a recopié, comme tu dis, une partie de ce texte, il l'a évidemment recopié en enlevant toute la partie, je dirais, spirituelle du judaïsme pour expliquer comment on était passé de ces sacrifices, enfin, de ce rituel sanglant à d'autres sacrifices. Rome et Jérusalem, c'est quand même, il y a un sous-titre à ce livre, c'est la dernière question des nationalités. Alors pourquoi la dernière question ?
Parce que personne ne se la pose à l'époque. Du moins, personne ne se la pose dans la communauté juive. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a des discussions. Encore une fois, chez les libéraux, ils font tout pour évacuer ce débat. C'est-à-dire que les libéraux, encore, la référence, l'une des références majeures dans le mouvement libéral, c'est l'un des fondateurs, c'est Avraham Jaeger.
Oui.
Ben, pour expliquer son mouvement, il dit bien oui, il va falloir qu'on arrête de croire qu'on est une nation. Mmh. Pour S, un ami qui s'appelle le rabbin Samuel Hirsch, qui est rabbin à Luxembourg, il faut remplacer le judaïsme par la franc-maçonnerie et puis par la grande religion de l'humanité.
C'est
un choix. C'est un choix. Et puis, il voit bien en parallèle l'autre grand rabbin, Samson Raphaël Hirsch, qui lui dit, finalement, on va vivre en communauté séparée. C'est pour ça qu'on dit que Hirsch a fondé la néo-orthodoxie avec le mouvement sécessionniste, où il va réussir à faire en sorte que, finalement, on va dissocier au niveau du culte allemand les libéraux des orthodoxes. Finalement, il dit, oui, on vit séparé, mais on ne vit pas en tant que nation. Et c'est pour ça qu'il dit, la dernière question nationale, c'est parce que les Juifs, finalement, ne se la posent pas à l'époque.
Donc tu dis, c'est lui, au fond, qui a peut-être le caractère novateur, disons, de Hesse, c'est qu'il a été le premier à penser les Juifs comme capables de mettre en marche un mouvement de libération nationale.
On peut le dire comme cela. D'ailleurs, le mouvement Libération Nationale, quitte à prendre les armes, puisqu'il évoque clairement cette hypothèse dans son texte Rome et Jérusalem, où il dit, il va falloir aller se battre, hein, il y aura des Bédouins, ça ne sera pas facile, ça ne va pas être quelque chose qui va être un peu comme ce qui se passe dans les autres pays européens durant la même période, il va falloir aller se battre.
Est-ce que c'est lui pour c'est une forme d'émancipation nationale, on peut dire ce terme-là aussi ?
Émancipation nationale, c'est-à-dire accéder à la souveraineté.
Oui.
La réponse est, à mon avis, oui. Puisque accéder à la souveraineté, c'est quoi le souverain ? C'est celui qui est capable à même de décider. Donc celui qui est à même de décider, c'est de dire vous n'êtes plus sous la tutelle d'autres peuples.
Nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons juste après ça.
Shamani agiya
Nous voici de retour avec Moshe S. et notre invité Jacques Amar.
Jacques, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Moshe S., qui était un sioniste, qui était également sioniste avant l'heure, disons, socialiste, lorsqu'il évoque cette renaissance nationale juive, cette libération nationale juive, il ne parle pas en termes de juif libéral. C'est-à-dire, il ne cherche pas à libéraliser, alors qu'on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un de gauche, disons de la gauche socialiste ou même communiste, on pourrait s'attendre à ce qu'il veuille une religion juive plus libérale, plus réformée, je dirais. Et en fait, pas du tout.
Pas du tout, exactement, pas du tout.
Alors explique-moi, moi je comprends pas, moi.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Non, je crois que c'est... Comment dire ? Le problème, c'est que le judaïsme libéral, il met l'accent sur l'humanité plus que sur le juif. Il met l'accent sur le rite plus que sur la pratique.
Oui.
Et donc, au passage, c'était en contact avec les libéraux.
Bien sûr.
Et la première décision prise à Pittsburgh en 1882, c'est-à-dire première déclaration du mouvement libéral, c'est de dire « on n'est plus un peuple ». C'est-à-dire que c'est ça le fondement. Maintenant, effectivement, ils ont un peu changé. Ils diront, non mais attendez, à la base, dans vos racines, il y a l'idée que vous ne pouvez pas vous affirmer comme peuple. Parce que si un juif s'affirme comme peuple, alors il se sépare
des autres.
Des autres. Et Hirschi dit, pourquoi j'ai essayé l'absus ? S, il dit, mais par définition, on n'arrivera pas à s'intégrer. Par définition, ça ne marchera pas. Il y a des causes, on a vu ce qui s'est passé à Damas, on a vu ce qui s'est passé, on voit ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que dans toute la... Bon, j'ai cité tout à l'heure Mendelssohn, l'avateur lui disait, convertis-toi. Il ne faut pas oublier que, les journaux allemands, il y a quand même des choses extraordinaires dans les journaux allemands de l'époque, c'est qu'on leur dit, mais pourquoi vous faites encore le 9 av ? Finalement, renoncez au 9 av. Et l'un des 9 av, c'est-à-dire le jeune qui commémore la destruction du temple, date importante dans l'histoire nationale du peuple juif. Donc on a quand même tout un... Alors même que les Juifs essaient de s'intégrer au maximum, on leur demande toujours plus. C'est ça qu'ils voient venir.
Oui. Et au fond, la première vraie cassure, c'est le christianisme. Mais dans la mesure où on ne s'est pas converti à ce moment-là, toutes les autres cassures, ce n'est qu'une répétition du christianisme. C'est-à-dire, disons pour lui, la libéralisation du judaïsme, ce serait une autre forme de christianisme ?
Par définition, oui. Il dit en tous les cas, par définition, à la fin, on deviendra tous chrétiens. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater, j'ai cité Heinrich Heine, mais Heinrich Heine lui aussi, par définition, à l'époque, il fallait se convertir. Pour entrer à l'université, il fallait se convertir. Et beaucoup se sont convertis.
Oui.
Mais à la fin, Heine, il dit non, finalement, j'ai fait une erreur. Parce que André Neher lui a consacré un chapitre dans son livre, ils ont refait leur âme pour expliquer comment ces gens-là qui ont cru à l'idée d'émancipation finalement vont revenir à leur peuple. Et pas revenir à leur peuple pour dire juste « je reviens, je suis juif » et tout ça, pour dire « non, finalement, on a fait une erreur, on ne pourra pas se couper de la pratique, on ne pourra pas se couper de la tradition. » Et c'est pour cela qu'il y a autant de références rabbiniques et au texte biblique dans le texte de S. Parce que si on n'a pas le texte biblique, si on n'a pas les commentaires qui nous disent que finalement on parle d'Israël et qu'on délimite la zone géographique, alors effectivement, on n'a rien à faire ici.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte, mais moi, ça me travaille. Donc, tu vas m'expliquer.
Si je peux.
Si je pense que tu peux. Je pense que tu peux, tu peux, tu peux.
Le coach.
Tu en es capable. c'est qu'il trouve dans le texte biblique, finalement, les fondements de ce qu'on pourrait appeler un socialisme juif. Et donc, il envisage de créer peut-être un État socialiste juif en Palestine. Bon, j'ai parlé tout à l'heure avec, évidemment, l'idée qu'on va se fonder sur ce prolétariat juif. Mais pour lui, il y a plein de règles, de lois dans la Bible, comme par exemple les lois sur la propriété de la terre, ou sur la répartition des moyens de production, des lois de justice, qui sont au fond des lois socialistes, si on peut dire, dans la Bible.
On va dire que c'est un peu ambivalent quand même de dire ça, parce que malgré tout, dans le Talmud, on apprend aussi que l'une des grandes découvertes de l'humanité, du judaïsme, c'est de comprendre le droit de propriété. Mais le droit de propriété, même s'il existe, c'est différent avec le socialisme, il faut le respecter, mais il a des limites. Et, ouais. toute la limitation qui est présente dans la Torah, notamment avec la réglementation de ce qu'on appelle la Shemitah, c'est-à-dire le repos de la terre, ouais. L'annulation des dettes, tout ce qui est le fait de laisser, tout ce qui est le fait de laisser ouvert son champ pour que le pauvre puisse venir manger. Il ne faut pas oublier que l'un des premiers textes de Marx porte précisément sur le fait qu'avec la propriété privée telle qu'elle se développe dans le capitalisme, on est en train de fermer les champs. On est en train de fermer ce coin de terre, ce qui fait que les pauvres ne peuvent plus venir manger. Donc on a effectivement l'idée d'ouverture en permanence. Bon, en fait, je dirais pas que la Torah est socialiste, je dirais que dans la manière de limiter la propriété, il y a une sorte de rééquilibrage permanent qui pourrait éviter les excès du capitalisme et qui pourrait le juguler.
C'est-à-dire qu'il y a une éthique sociale dans le judaïsme, une éthique sociale fondamentale dans le judaïsme qui fait que on ne laisse pas s'instaurer des déséquilibres trop importants.
Il y a une éthique sociale, on peut le dire comme cela, mais on peut être plus terre à terre. Là, je vais citer le rabbin Hirsch, il dit, bon, si votre libération, c'est de croire qu'il faut fumer tous les jours de la semaine et qu'il faut qu'il y ait de la fumée qui sorte tous les jours de la semaine d'une usine, vous n'avez pas gagné grand-chose. Hirsch va définir le Shabbat comme la protection de la nature par l'homme. Bon, voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a un système qui est sans limite, ça s'appelle le capitalisme, et tout le débat moderne depuis Marx, c'est de savoir comment va-t-on délimiter les moyens de production, puisque les moyens de production s'auto-engendrent avec la technique, s'auto-engendrent au point de ne plus avoir de limite. On le voit bien avec Internet au quotidien. On est 24 heures sur 24, on n'a aucune limite. Il ne faut pas oublier juste un point quand même, c'est que le droit du travail naît avec l'électricité, parce qu'il faut éteindre la lumière. Parce que si on n'éteint pas la lumière, on peut faire travailler les gens 24 heures sur 24. Pas l'oublier, ça. Donc bon, il y a des auteurs qui perçoivent les dérives. Marx en fait partie, c'est pour ça que ça reste un auteur majeur. Après, la solution qu'il propose n'est pas forcément convaincue. Ce que S dit, c'est qu'on a une tradition différente de limitation, d'encadrement, et on a besoin de fixer un cadre. C'est tout.
Est-ce que sa vision était vraiment celle de créer un État socialiste juif en Palestine ?
Je crois que sa vision, c'était de dire, si on veut réaliser un idéal juif, il faut que ce soit en Israël. Et si on veut que cet idéal juif puisse servir d'exemple à l'humanité, alors il va falloir se soumettre à une réglementation qui nous dépasse.
Et il faut aussi que ce projet soit porté par des masses juives, comme on dit.
Et il faut bien évidemment qu'il soit porté par des masses juives qui vont s'émanciper en plus, mais surtout qui vont admettre de se soumettre à une réglementation qui les dépasse sur des points. Bah comme je vous dis, dire aux gens que bon, bah, il va falloir arrêter de cultiver la terre et tout ça, partager davantage, donner bon, tout le problème du don de la terouma ou autre, c'est finalement un précurseur de l'impôt. Il va falloir se soumettre à des règles distinctes. Et c'est comme cela qu'Israël pourra devenir porteur d'un projet pour l'humanité. C'est un peu sa vision, c'est un peu sa vision globale. Pour cela, ce qui est amusant, c'est qu'il va citer le prophète Isaïe. Parce qu'il y a une grande polémique au 9e siècle pour dire bah, Isaïe, on peut être la lumière des nations en vivant parmi les nations.
Oui.
Alors que, ça c'est toute une interprétation comme cela, l'interprétation que reprendra à sa façon d'ailleurs Lévinas, alors que S dit non, on ne peut être la lumière des nations que si véritablement on est souverain chez soi pour montrer qu'on peut le faire à l'échelle globale et pas uniquement à l'échelle individuelle.
Oui, on peut rayonner sur les nations. Il y a dans le texte de S, il y a un passage très intéressant qu'on ne s'attend pas à lire forcément chez un sioniste socialiste, c'est un grand passage sur le chassidisme.
Oui.
C'est un grand admirateur du chassidisme, justement parce que le chassidisme a montré que les juifs pouvaient agir de façon efficace, de façon, je dirais même, importante sur l'histoire, en tant que communauté. Ce communautarisme-là, c'est un peu la base de son socialisme.
Je ne sais. Ce qui est intéressant dans le chassidisme tel que le voit Hesse, c'est-à-dire historiquement, c'est que les chassides, une partie des communautés chassidiques, commencent à émigrer en terre d'Israël. Faut pas l'oublier.
Ouais.
C'est que le voyage de Rabbi Nachman de Breslev. Est-ce que c'est vraiment du sionisme ou autre? Ça peut se discuter, mais en revanche, l'installation de la communauté Chabad très tôt,
oui.
La redécouverte de l'importance de Sfat au XIXe siècle par les communautés chassides, et tout, c'est parti d'un mouvement, déjà d'un mouvement du retour qui anticipe l'idée qu'il va falloir, que certains disent notre place n'est plus ici et qu'on a un fondement pour cela. Puis il y a le comportement chassid, c'est que quand il n'est pas de la bigoterie, c'est effectivement un comportement dit de fraternité, de partage, d'entraide,
oui.
Qui fait qu'effectivement la communauté peut être un modèle ici.
Un modèle de partage des biens et de partage en communauté de...
Oui, et puis ce qui est intéressant par rapport à quand Hesse parle du chassidisme, c'est qu'à l'époque, le seul témoignage, entre guillemets, d'intellectuel que l'on avait sur le chassidisme, c'était l'autobiographie de Salomon Maïmon.
Oui.
Et Maïmon, lui, Salomon Maïmon, c'est un juif qui a commencé du côté chassid, puis ensuite devenu un philosophe, critique de Kant. Bon, et lui avait dit, non, finalement, il n'y a rien à en tirer de tout cela, c'est vraiment le retour à la superstition, c'est vraiment...
mystique.
Il avait dit, non, vraiment, rien. Et puis, ben non, Hesse, il dit, ben non, finalement, c'est beaucoup plus fort que tu ne le crois. Finalement, c'est toi qui n'as rien compris, puisque finalement, tu as voulu te couper de ton peuple.
Oui, c'est intéressant d'ailleurs. C'est ce que dit Buber, d'ailleurs, en 1901. Il y a une phrase de Buber qui dit, à propos du texte dans son journal, je crois, Buber dit tout ce que nous essayons de faire en Palestine, Hesse l'a déjà dit, en fait.
Oui, Hesse l'a déjà dit, et Herzl aussi le reconnaîtra que tout est déjà dans Hesse.
Alors, il y a un autre aspect intéressant chez Moshe Hesse, que, contrairement aux autres sionistes socialistes qui viendront après lui, c'est qu'il porte une attention particulière à la population arabe de la région. Il s'y intéresse en tout cas.
Bah,
et donc il voit qu'il y a aussi un problème arabe, finalement. Oui. Pas par rapport au sionisme, mais un problème national des populations arabes au Proche-Orient.
Un peu plus compliqué l'émergence de la nation arabe, parce que Hesse mentionne l'idée qu'il va falloir se battre contre les Bédouins.
Oui.
Mais on va dire, malgré tout, lorsque l'Europe découvre le Proche et le Moyen-Orient à l'époque, on ne le voit pas vraiment. Je pense pas qu'on raisonne encore en termes de nation. Je vois pas de.
Parce qu'à un moment, je sais qu'il évoque la résurrection d'États arabes en Égypte et en Syrie.
Oui, l'Égypte et la Syrie. L'Égypte et la Syrie, mais l'Égypte et la Syrie, ça ne concerne pas la zone d'Israël. Parce que cette zone-là, elle est vraiment laissée à l'abandon à l'époque. Donc effectivement, il dit, on voit réémerger des tendances qui prouvent bien que le mouvement... Est-ce que pour autant,
il a quand même vu la naissance ou la possibilité... Une résurrection mouvement national arabe.
Pour lui, en tous les cas, par définition, à partir du moment où il a renoncé à l'idée socialiste internationale au sens indépendamment de toute attache nationale de l'individu, il est évident que tout ce qu'il voit, c'est quoi ? Il comprend que les peuples, quels qu'ils soient, vont chercher à s'émanciper. Après, est-ce qu'il a vraiment vu le problème, entre guillemets, j'aime pas tant problème... J'aime pas utiliser le mot problème parce que le problème est-ce qu'il a vraiment vu la difficulté qu'allaient rencontrer les juifs par la suite avec le fait
non, non. Non, non, je parle plutôt de la naissance d'un mouvement national au sein du monde arabe.
Ah, par définition, pour lui, c'est évident que la
nation. Ce qui n'était pas du tout envisagé lorsque les gens écrivaient au 19e siècle sur la question d'Orient. On parlait très peu de la possibilité d'un mouvement national arabe.
Il y a un texte intéressant.
Ernest Laharan, je crois, qui est La Nouvelle Question d'Orient, chose comme
moi,
ça.
Moi, c'est le texte impressionnant que j'ai trouvé par ailleurs sur Internet, c'est de Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes.
Oui.
Mais effectivement, on n'a pas la perception n'est pas la même.
D'accord. Malgré tout, on va essayer de conclure un petit peu sur Moshe Hesse et Même si au début du mouvement sioniste, on a un petit peu ignoré sa pensée, notamment Herzl ou des gens comme ça qui étaient plus essayaient plus de faire du mouvement sioniste un mouvement un peu bourgeois d'une certaine façon, puisque Herzl allait chercher justement le soutien des puissants, des grandes puissances et pas forcément des masses. Et puis il y a eu le mouvement sioniste socialiste qui lui s'est intéressé à Hesse et a malgré tout reconnu, je dirais, sa contribution. Quelqu'un comme Ben Gurion, par exemple, a été très très impressionné par la lecture de Rome et Jérusalem. Et d'ailleurs, en Israël, l'État d'Israël a bien évidemment reconnu, puisqu'il y a beaucoup de rues Moshe Hess pratiquement dans toutes les villes d'Israël. Et puis il y a également un moshav qui s'appelle Kfar Hess, à la mémoire justement de Moshe Hess. Alors, est-ce qu'on peut dire que Moshe Hess a encore... je dirais, une influence aujourd'hui, quelqu'un pourrait, autre que simplement s'intéresser à des textes historiques ?
Bah disons que s'intéresser à des textes historiques, c'est comprendre comment on écrit l'histoire. C'est déjà, c'est un premier point, c'est de montrer que le parcours que l'on a choisi depuis 1800 et les débats que l'on a dans la manière dont on écrit l'histoire n'est pas toujours neutre. C'est-à-dire qu'on parle toujours, on dit toujours, on sait toujours qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle les historiens révisionnistes. Oui, les historiens révisionnistes ne citent jamais Moshe Hess et vont commencer uniquement à Herzl. C'est-à-dire que beaucoup d'histoires du sionisme ne commencent qu'en 1895. Donc déjà, montrer qu'il y a une autre perspective, c'est montrer qu'il n'y a pas toujours... c'est-à-dire que la conception d'Israël, État laïque et tout ça, n'est pas forcément au fondement du sionisme. Déjà, d'où l'intérêt de le relire encore et toujours et de le diffuser pour montrer que ce n'est pas en masquant les sources que l'on pourra faire avancer les problèmes. Pour d'où la démarche que j'ai entreprise sur cet auteur. Maintenant, est-ce qu'il y a des auteurs qui s'en revendiquent ? Je ne pense pas, mais qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire, hormis le fait qu'une partie de la classe politique s'est convertie au libéralisme, le fait maintenant de... Et hormis... un ou deux partis sur l'échiquier politique, l'idée qu'Israël est une nation, c'est quand même imposé à tous. C'est qu'on est ici parce qu'on doit être ici, c'est une idée que c'est imposé à tous. Alors, et ceux qui réhabilitent en permanence l'héritage d'Herzl n'arrivent toujours pas à comprendre cela. Et ça peut aller de d'auteurs aussi quand même israéliens, aussi importants que Amnon Rubinstein, qui chaque fois qu'il parle du sionisme commence en 1895 pour éluder la question religieuse.
Oui, d'une certaine façon, ce qui est intéressant chez Moshe Hess, c'est justement le fait que son analyse, je dirais, est une analyse scientifique socialiste, d'une certaine façon, une analyse d'histoire avec les outils de ce qu'on appelle le marxisme ou le socialisme classique. Et d'un autre côté, il n'évacue pas la tradition juive. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que on a toujours pensé que le sionisme socialiste était une volonté de déjudaïser, de normaliser, comme on a dit, la nation juive, c'est-à-dire de la transformer en une nation purement laïque. Et justement, dans le débat actuel, on parle beaucoup de laïcité. Moshe Hess montre que la laïcité n'a aucun sens pour la nation juive,
oui,
pour le peuple juif, pour l'État d'Israël. La laïcité, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Et puis bon, je citerai juste deux choses. En 2014, lorsqu'il y a eu la Shemitah, donc l'année de Shemitah, à la Knesset, tous les principaux partis ont fait l'éloge de la Shemitah comme règle à respecter. C'est la première fois qu'il y a eu autant d'approbation au niveau de la Knesset. Et puis, bon, des auteurs, un universitaire comme Eliezer Schweid,
oui, très important,
un auteur très important, même s'il ne c'est pas forcément Hess, mais lui aussi il dit bon, si on n'a pas la tradition pour fonder, si on n'a pas l'idée d'une centralité, pas d'une centralité, mais si on n'a pas un fondement religieux, on n'a rien à faire ici. Donc on voit bien que malgré tout l'idée elle est présente, elle est bien diffusée, donc indirectement on va dire il a vocation à gagner sur l'héritage d'Herzl.
C'est-à-dire l'héritage qui n'est pas seulement le sionisme politique, mais un sionisme à caractère à la fois social, mais dont la spiritualité se fonde dans les textes juifs et dans la tradition juive.
Voilà, je suis content parce que tu n'as pas utilisé le terme sioniste religieux, ça nous aurait énervé tous les deux.
Oui,
mais effectivement...
J'utilise rarement ce terme.
Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée qu'il y a une justification à la présence juive sur... à la terre d'Israël, ce que le grand penseur Yereskel Kaufman dira, on n'a pas demandé l'autorisation parce qu'ils ne nous la donneront jamais.
Oui.
Et que puisqu'on est là, c'est à nous de changer les choses par nous-mêmes, par les règles dont l'inspiration profonde ne peut être que la tradition juive.
Merci beaucoup, Jacques, d'être venu nous voir.
Merci beaucoup, Jacques. Merci, Michael. Et merci, chers auditeurs de Radio TAF. Je vous dis à très bientôt et on se quitte en musique.
לא מאמין לנשק, מאמין בשירה ותיק מספיק, תדע לעשות את הבחירה איך זה למה שהמצב בחירה עוד אימא שמטפטפת, מזכירה בדיוק כרגע מבעלי הסערה ואנחנו לגמרי לא עוקר את הסיעה שאישו על עצמו שומר חום בבירה איך זה שאנחנו מרגישים את זה
משתמשים בתשקורת לביית ולתכנת להכתיר לנו את השקר שנאמין שזה אמת הכולל
אני מריח, זה מסריח בראש
שומעים איתי לגע
על זה יש מן לחשוב
שמה שחשבתי הגיוני
לא הגיוני בהחלט
זה הזמן שמסיעים
מהאלף אל הבית
זה הזמן להתעורר הבית מתעורר נצא מאחורים ביחד להסתתר תרימו את היד תפתחו את הפה לחברי המחאה
לשחרר מחפאה
כי הם חותרים להקלה
לתיקונה של העברה
במוזר העבדים נמאס
רוצים לחיות בקלאס
ומחשב לנו עתיד הילדים עכשיו שוברים את הכלים
אז כדים שלי אל תשתופפו תגלים חדשים עוד יתפוססו
הימים השחורים
עוד יתפוססו
ילדים מאושרים
עוד יתפוססו
למען המחר נצא לכיכר נראה לכם בדיוק כמו נת הזהב
ומי פה העובד לא
תחזור
מי פה המשיח
מי פה החמור
אז אחים שלי אל תשתופפו החזיק במעמד
אל תתפוססו
אחים שלי
אל תשתופפו
לא כל המוחד שלנו נשתפו
זה הזמן להתעורר הבית מתעורר